Ah bon ?
Pour la présentation du projet, c'est vrai que moi je trouve que c'est vachement bien de faire un
S-U-M-E-L-U-M.
Oui, mais après je me dis que dans un mix, comme faire un gâteau, tu vois. Tu peux
quand même, c'est agréable de s'acheter une salade tous les matins.
C'est la présentation
lui-même.
Ça, ça s'est présenté comment alors?
Chaque fois, toutes les heures, tu as 10 minutes de...
Lui-même.
Et 2 pour les annonces, 37.
À rebours, 20 minutes.
On est loin de 50, hein. Et la mise en forme, on verra bien, non?
Ben je sais pas, il faut qu'on trouve.
Lumen, une émission de création sonore coproduite par l'atelier son de l'École des Beaux-Arts et Radio Grenouille.
Donc bonjour, bienvenue au premier forum de cette année à l'école. Donc le forum d'aujourd'hui, l'invité c'est Pierre-Yves Massé qui est un compositeur. La particularité donc de cette invitation c'est que Pierre-Yves va effectuer et a commencé à effectuer une résidence à l'école sur 3 semaines au cours de l'année. Cette résidence fonctionne avec un groupe d'étudiants plus préoccupés de questions sonores, on va dire ça de manière générale. Et donc la résidence va se mener jusqu'au mois de juin avec comme aboutissement de ce projet de rencontre régulière avec Pierre-Yves Massé, un projet d'exposition dont la forme n'est pas encore tout à fait définie à la galerie de l'école, mais qui se construira au fur et à mesure de la présence de Pierre-Yves. Par ailleurs, ce projet avec Pierre-Yves Massé sera suivi régulièrement à Radio Grenouille tout au long de l'année. Je ne vais pas dire plus de choses que cela, puisque Pierre-Yves va présenter son travail. C'est très aimable à vous d'être présent pour sa prestation d'aujourd'hui. Merci.
Merci Patrice. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais tout d'abord remercier très chaleureusement Lucia Bertolina, Patrice Carré et Jean-Louis Conan de m'avoir invité à ce workshop, dont je me réjouis beaucoup. Alors là, je vais vous parler pendant une heure et demie d'ailleurs. Je vais vous présenter mon travail en essayant d'être le plus exhaustif possible sur la diversité de mes projets. Pour commencer, je vous explique un petit peu, enfin j'aimerais dire quelques mots pour situer ma pratique artistique, pour la localiser. Ce qui n'est pas un exercice facile, puisque ça demande d'avoir un recul, c'est-à-dire de pouvoir dresser une ligne de cohérence dans ce qui n'en a peut-être pas. Ça demande également à établir des limites, ou en tout cas peut-être définir négativement ma pratique comme ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle ne saurait être. Donc peut-être aussi brider les devenirs ou les potentialités qui s'y logent, et qui demandent qu'à être exploitées. Bon, il y a quand même une chose simple que je peux dire, c'est que mon travail est avant tout musical, et que je suis musicien-compositeur, et non pas artiste plastique sonore. Je fais cette distinction-là parce que ça me semble important, et ce n'est pas de ma part une façon d'ignorer à quel point la frontière entre musique et art sonore s'est effrangée, pour reprendre un terme cher au philosophe Théodore Adorno. Comment cette frontière s'est effrangée au cours des dernières décennies avec un ensemble de pratiques qui justement se situent entre les deux. Donc ce n'est pas un réflexe défensif ou réactif de ma part de me dire musicien pour ne pas me dire artiste, Et c'est encore moins, cela va sans dire, mais je tiens quand même à le préciser, afin de revendiquer une supériorité ou un savoir-faire qui serait supérieur à l'artiste sonore. Je dis ça parce que pour pas mal de musiciens, pas mal de musiciens, et parfois même les meilleurs, ont parfois une coquetterie à se dire musicien, comme s'ils s'estimaient inférieurs. Donc il y a toute une espèce de sacralisation de la musique contre laquelle je me porte en faux. Donc me dire musicien, c'est dire une chose toute simple, c'est caractériser avec précision ma pratique et dire, par exemple, que je ne fabrique pas des pièces ou des objets, des dispositifs, des actions, des performances, mais quelque chose comme un discours, quelque chose qui s'étale dans le temps, des objets temporels, on pourrait dire. Donc une écriture du son. Et une écriture qui pourrait avoir parfois l'allure d'une musique conventionnelle, c'est-à-dire écrite pour des instruments classiques et par le moyen du solfège traditionnel. Alors vous venez d'entendre un extrait d'une composition intitulée « Glissement de terrain » pour harpe, violoncelle, vibraphone, piano et contrebasse. Je l'ai composé il y a environ un an et il me semble, avec le recul qui m'en sépare désormais, qu'elle évoque assez nettement les pièces de mon premier album publié, premier disque, qui s'appelle « Faux jumeaux » sur le label Tzadik en 2002. Et alors le propos de ce disque, son enjeu était de faire se rencontrer, faire dialoguer l'écriture instrumentale classique et le traitement de studio, les manipulations électroacoustiques. Et alors mon rapport à l'électronique était contraint, puisque je prenais le parti de faire découler tous les sons électroniques des sons instrumentaux. Donc en fait, dans la composition, il y avait à la fois le son instrumental et des samples ou des sons électroniques qui en étaient, des sons électroacoustiques qui en étaient dérivés. De manière à ce qu'il y ait une sorte de cohérence de timbre à l'intérieur même de la composition. Et depuis, j'ai cherché à autonomiser mon rapport à ces deux domaines, l'écriture instrumentale et l'écriture électroacoustique. Et dans la composition dont vous allez entendre un extrait maintenant, qui s'appelle « Qui vive », que j'ai composé aussi en 2008, j'ai utilisé pour la première fois des sons purement synthétiques, donc des sons issus d'oscillateurs, de synthétiseurs. Donc il n'y a pas du tout de son ni instrumental, ni phonographique ou documentaire. Ce qui m'intéressait dans le son synthétique pour cette pièce, c'est quelque chose qui aurait à voir avec une microscopie sonore, donc cette espèce infiniment petit de la matière. C'était une pièce pour 8 points de diffusion, donc une pièce écrite pour une octophonie, donc dans chacun des haut-parleurs il y avait du son différent, donc c'était pas de la stéréo répartie en 8 points. Et j'avais une volonté il y avait une volonté dans cette pièce de décentrer l'octophonie, c'est-à-dire que c'est un dispositif généralement qui se fait en fonction d'un centre dans lequel l'écoute est optimale, où on entend absolument tout. Et donc on a tendance à composer ce genre de musique pour ce centre parfait qui serait l'écoute du prince. Et lorsqu'on diffuse ça, du coup, il y a un problème pour toutes les places, tous les lieux d'écoute qui ne sont pas ce centre. Donc j'ai voulu décentrer l'octophonie et faire en sorte que la composition regorge de petits sons qui sont à peine audibles et qui sont audibles seulement lorsqu'on est situé près du haut-parleur en question. Donc ça veut dire que lorsqu'on est au centre, on n'entend pas tout, et on n'entend pas tout non plus lorsqu'on est près d'un haut-parleur, on entend chaque fois quelque chose d'un petit peu différent. Donc l'écoute exhaustive de cette pièce est dans une certaine mesure impossible. Ce que vous allez entendre là est une version stéréophonique, évidemment. Donc elle ne restitue pas ce dont je vous parle là, le rapport à l'espace, mais elle est toutefois fidèle à son caractère global. La musique est, comme vous le savez, un art qui est fortement clivé. Donc, pour citer quelques exemples de clivage, il y a celui entre le savant et le populaire, entre la musique contemporaine et la musique qu'on appelle parfois expérimentale, innovatrice, inclassable, entre l'électroacoustique et l'instrumental. Et on sait comme ces clivages, d'une part, recoupent des logiques de réseau qui ne sont pas vraiment de l'ordre d'un ordre esthétique. Et on sait comment énormément d'artistes ont du mal à se positionner dans cette espèce de système d'opposition. Et c'est évidemment mon cas. Alors, l'un des moyens d'échapper à ces positionnements contraints sur la base de ces oppositions a été pour moi de collaborer avec d'autres artistes, d'artistes d'autres disciplines ou de personnalités ayant des pratiques différentes des miennes. Alors, à titre d'exemple, l'exemple le plus important, c'est la collaboration que je mène depuis maintenant 7 ans avec l'écrivain Mathieu Larnaudy. Alors, c'est une collaboration qui s'étale dans le temps et qui prend des formes très très diverses, dont je vais vous parler un petit peu. Ce que je peux dire, c'est que la contrainte de travailler à partir d'un texte m'amène à beaucoup plus de liberté sur tout ce qui concerne le choix des sons, le choix des sonorités, puisque en quelque sorte, le texte m'apporte des éléments, non seulement des éléments de sens, un contenu sémantique, mais également des dispositifs formels, en tout cas une forme qui, d'une certaine façon, précompose la musique. Une première forme que pourrait prendre cette rencontre entre texte et musique serait le dispositif classique des rencontres littérature-musique dans le cadre de concerts ou de performances, c'est-à-dire une lecture du texte par l'écrivain généralement, là ce sera le cas, et un accompagnement instrumental ou musical. Alors vous allez entendre un extrait du projet intitulé « Hong Kong Police Terrorist Organization » qui est... Donc le projet qui est mené avec Mathieu Larnaudy dans le cadre d'une performance ou de concert.
Songez-vous parfois à planter des arbres et des arbustes autour de votre maison? Vous devriez. La verdure adoucit les mœurs, comme dit le poète. Elle vise aussi à l'économie énergétique.
La plateforme de l'éclairage global est un dispositif de connexion par un campus de connexion et par un poste de conférence un petit peu pour les citoyens de l'éclairage global. L'expositif rencontre des citoyens qui trouvent de se rencontrer en temps réel comme s'ils se trouvaient dans un espace public, un parc par exemple.
Je ne sais même plus très bien pourquoi j'ai été recruté. Déjà, le bureau m'avait transmis l'ordre de mission avec une circonspection agaçante. L'enquête n'en était pas vraiment une. La formation ne devait être ni relevée ni produite, mais seulement constatée ou quelque chose de cet ordre. Comme s'il suffisait au bénéfice de l'agence qu'un agent s'assure de la présence de l'information, sans avoir besoin de la traiter, de l'analyser ni de la transmettre. Je devais prendre note d'un énoncé immobile, indépendamment de tout moyen de captation, d'enregistrement. On ne me demandait même pas de constituer un document, de ramener une preuve. On m'a recruté pour aller voir, point. Revenir et dire « ça y est, j'ai vu ». Dans mon bureau, je finissais mon quatrième gobelet de café lyophilisé en résistant à l'envie d'une cigarette. Ça faisait presque 6 ans que j'arrêtais de fumer tous les 2 jours. Un jour avec, un jour sans clope. J'étais dans un jour sans. Je ressassais la requête. J'explorais ma mission avant même d'y être. J'écrasais le gobelet dans mon poing, l'expédiais dans la corbeille à papier sans quitter mon fauteuil, les pieds toujours sur la table. 3 points. Ça ne me disait rien. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que c'était que cette histoire où l'on me demandait de ne pas faire d'histoire à tous les sens du terme ? De ne pas faire de vagues et de ne pas ramener d'histoire ? De ne rien raconter hormis que j'étais là, que j'y étais allé, que j'avais vu, que j'avais constaté, que j'étais un constat sur pattes.
En hiver, les conifères protègent votre maison des vents froids, ce qui réduit vos coûts de chauffage. Vos contacts d'air refroidis par le vent. Vive le vent, vive le vent. Comme dit le poète, les matériaux constituant les fenêtres et les murs d'habitation se refroidissent, ce qui entraîne des pertes de chaleur. Installez le brise-vent perpendiculairement à la direction du vent dominant. Attention à ne pas vous passer.
Aucune limite de taille de projet, aucune limite en nombre d'éléments architectoniques, d'étages, de coupes, de détails ou de calques, navigation 2D et 3D interactive, curseurs intelligents, saisie en plan, coupe, élévation et en 3D, associativité complète entre plan, coupe, élévation, perspective, nomenclature et métrée, variabilité du graphisme en fonction de l'échelle.
Même si vous consommez moins d'énergie dans les décombinaires, l'utilisation de plus en plus courante d'appareils de climatisation entraîne une augmentation de la demande d'électricité durant la période estivale. C'est évidemment la façon de mettre des éclairages à trouver un peu de fraîcheur et pour un petit poète.
Mon cher ami, aide. Hong Kong gouvernement utilisant cerveau voilu, écrive, usine, tuant, Hong Kong les gens, Hong Kong gouvernement et le public, monde ennemi. SVP email le monde, 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000, merci. Gestion des avant-plans et arrière-plans, verrouillage et déverrouillage des éléments, fonction de recherche et sélection par critères, étage fantôme avec possibilité d'afficher ou copier leurs paramètres, combinaison de calques, enregistrement de jeu de vue, technique de saisie au clavier, avec accrochage grille, attraction curseur, décalage avec contrainte sur point réparti, baguette magique, contrainte directionnelle, gravitation, point magnétique de division de segments ou d'arc, curseur affichant graphiquement l'action en cours telle que taillée, prendre attribut, donner attribut, etc. Duplication par répartition, par série,
le dispositif est une
par géométrie ou par matrice.
Protège 8 grands écrans situés au centre.
Option d'archivage.
Retransmet l'image de l'individu en connexion. Les gens peuvent aussi se parler et s'entendre en toute liberté, grâce à une zone d'aménagement sonore située à quelques mètres de chaque écran. Nous espérons que bien d'autres villes se joindront au projet par la suite. Pour la conférence, je voudrais montrer les premières ébauches de la place du village global et en expliciter.
J'y suis allé. J'ai vu.
Notre intention est de donner un.
Puis j'ai rejoint pour dîner l'un de mes amis, collègues, en faction dans la même zone, au même moment. Le restaurant était dans la vieille ville. C'était un de ces restaurants d'angle de rue comme il y en a des centaines, des milliers, des centaines de milliers, qui se ressemblent tous. Où nous achevons nos missions par un dîner, où nous nous offrons un interlude en pleine mission. Un moment de détente, un dîner dans une des villes où le devoir nous envoie. Toutes ces villes se ressemblent strictement. Il n'y a guère, changeant, que la calligraphie mécanisée des caractères produits sur les affiches et les panneaux. Parfois je sais les lire, parfois je ne sais pas les lire. Mais si je ne sais pas les lire, leur traduction en alphabet romain les accompagne généralement. Donc, je sais me repérer. L'alphabet est dédoublé pour mon usage. Je ne suis jamais vraiment perdu. Il n'y a rien de plus difficile dans le monde actuel que d'être vraiment perdu, sans point de repère aucun qui permette de s'orienter même un minimum. Rien de plus dur, et me dis-je parfois, rien de plus désirable. L'ami collègue en question avait entendu parler de ma mission. Comment ? Je n'en sais rien. Sans doute l'agence pour laquelle il travaillait avait-elle été sollicitée pour couvrir le même fait. Peut-être que quelqu'un de chez eux y était allé aussi. On n'est jamais seul sur un coup. Jamais assez seul. Il m'a demandé « Alors, tu l'as vu ?» Et j'ai répondu « À partir de là, ce n'était un secret pour personne. Ouais mec, j'ai vu. Je peux te dire que j'ai vu. »
Entendre comment le dispositif texte-musique est un petit peu détourné en ce sens que j'introduis dans la partie musicale la voix de Mathieu Larnaudy, donc des enregistrements antérieurs de sa lecture du texte que je retravaille, ainsi que des voix qui sont totalement synthétiques, donc des voix produites par des logiciels de synthèse vocale et ensuite retravaillées. Alors tous ces éléments s'imbriquent en une forme de collage qui d'ailleurs est assez narrative. Et donc cette forme en collage vient du texte source, le texte qu'a écrit Mathieu, qui permet une libre association de fragments qui sont totalement hétérogènes du point de vue de leur dispositif d'énonciation, du point de vue de leur contenu. Voilà. Alors une seconde forme de rencontre entre texte et musique consiste à interroger un format particulier qui est celui de la chanson. Alors, avec le même Mathieu Larnaudy ainsi qu'avec la chanteuse Ariane de Montjoie, j'ai créé un projet, une espèce de groupe, ou un groupe à géométrie variable, ou plutôt quelque chose qui serait strictement de l'ordre du studio, donc comme un groupe fictif, puisqu'on ne se produit pas sur scène, et qui travaille sur des chansons. À travers la parole d'un personnage fictif qui s'appelle Anita Drangsal, qui est le nom qu'on a donné à notre projet. Une espèce de personnage dont le texte dresse le portrait, qui est un personnage décadent, un petit peu postmoderne. Alors à travers ce projet qui a été entamé il y a déjà très très longtemps, puisque ça a commencé en 2003, et on y travaille à intervalles très très espacés, c'est une espèce de projet, qui crée des parenthèses régulières dans nos travaux respectifs. Pour moi, il s'agit de renouer en quelque sorte avec une pratique musicale pop et rock qui est à la base de ma pratique musicale. C'est comme ça que j'ai commencé tout simplement à faire de la musique. Et en même temps, il s'agit aussi de la tordre, de la déstructurer et de la travailler de l'intérieur, comme vous allez l'entendre.
Dupliquer nos cerveaux, s'inscrire sur nos écrans, reprendre à zéro, effectuer quelques changements.
J'aimerais maintenant évoquer une deuxième collaboration avec un écrivain qui s'appelle Philippe Vasset, et une collaboration qui prend également des formes différentes, en tout cas deux. Pour commencer, on va écouter un extrait d'une pièce qui s'appelle « Pollution ».
Je suis devenu un être bruissant.
J'essaye de parler.
De la parole, je n'ai plus que l'écho, la trace. Les mots débités du mot au kilomètre, je ne produis que gargouillis et borborées. J'ai beau débiter du mot au kilomètre, je ne produis que gargouillis et borborecteurs, grondements de réacteurs, dénotations liquides, échappement d'antenne, grésillement d'antenne. Insensiblement, je me dématérialise dans l'immensité du spectre sonore. tour à tour l'excavatrice qui pousse et souffle, l'autobus qui s'arrête dans un grand bruit de frein, le navire que l'on décharge, et l'alarme incendie. Je suis le hangar qui résonne, les caténaires qui sifflent et les gravats qui s'effondrent. Je dérange, je pollue, j'agresse.
Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que Philippe Vassem a confié un texte qu'il a écrit spécialement pour que, selon ses propres termes, je le cannibalise, c'est-à-dire que je m'en saisisse et que j'en fasse ce qui bon m'en semblait. Donc j'étais totalement libre de sa mise en son, mise en musique, et j'ai choisi de la faire lire par un acteur, qui est Pierre Beau, et de faire circuler les voix et les sons dans un dispositif de 7 haut-parleurs. Donc encore une fois, ce que vous avez écouté était une version stéréo. Et alors ce qui m'intéresse, c'est que, avec cet exemple, c'est que la démarche, cette démarche va donner lieu à un renversement, en ce sens où, cette fois-ci, pour le prochain projet dont je ne peux que vous parler puisqu'il est encore en cours, je compose une musique qui ne sera pas entendue, sauf par Philippe Vasset qui va écouter la musique et qui va écrire un texte à partir de cette musique. Donc l'idée, c'est que là, c'est moi qui lui offre une musique, et ensuite je n'ai aucun contrôle, aucune maîtrise sur ce que lui-même en fera au niveau du texte, puisqu'il y a un rapport évidemment de confiance réciproque.
Fin de la première partie de conférence de Pierre-Yves Massé. La seconde partie sera diffusée le lundi 7 décembre à la même heure sur les 3-8 de la Grenouille.
Oui, mais après, je me dis que dans un mix, c'est comme faire un gâteau, tu vois. Tu
peux quand même, c'est agréable de s'acheter une salade tous les matins.
C'est la présentation
humaine.
Et ça s'est présenté comment alors?
Chaque fois, toutes les heures, tu as 10 minutes de.
Humaine.
Et 2 pour les annonces, 37.
À rebours 20 minutes.
On est loin de 50. Hein. Et la mise en forme, on verra bien, non?
Ben je sais pas, il faut qu'on trouve.
L'Humaine, une émission de création sonore coproduite par l'atelier son de l'École des Beaux-Arts et Radio Grenouille.
Alors j'aimerais prolonger ma présentation de mon travail autour de la voix en évoquant le travail d'un projet collectif auquel j'appartiens depuis maintenant un an, qui s'appelle l'Encyclopédie de la Parole. Alors c'est un projet collectif au sens où il réunit des personnalités issues de disciplines distinctes, ayant des compétences diverses, comme par exemple l'écrivain Joris Lacoste, le linguiste et écrivain Nicolas Rollet, le performeur Frédéric Danos, le philosophe et critique d'art Nicolas Fourgeot, ou encore le curateur Grégory Castera. Notre enjeu, c'est de travailler de façon transversale sur la diversité des formes orales. Donc ce que nous faisons, c'est que nous collectons des documents sonores de parole de toute origine, que ce soit documents personnels, extraits de films, radio, etc. Choses prélevées sur Internet, sur YouTube. Et nous cherchons à en dégager des traits purement formels qui permettent de les réunir, de les faire dialoguer. Ce dont il s'agit, c'est de trouver de faire entendre ce qu'il peut y avoir de commun dans la forme de la parole. Donc là, il n'est pas question du contenu de ce que dit la parole, entre par exemple la locution télévisée d'un homme politique ou une lecture de poésie sonore, une conversation courante ou encore un tutoriel, une parole didactique de toutes sortes. Donc à partir de là, nous définissons ce que nous appelons des entrées d'encyclopédie. Qui nous permettent d'opérer ce lien transversal. Par exemple, nous avons compression, donc c'est la définition d'une parole comprimée ou compressée. Nous avons pli, pour évoquer une parole qui serait pliée ou plissée, et saturation, pour évoquer une parole qui serait saturée. Donc, nous avons comme ça entre 15 et 20 entrées. Et à partir d'elles, notre travail prend plusieurs formes, des conférences, des articles écrits à partir des conférences, des ateliers ou des jeux, des installations sonores et enfin des pièces sonores dont j'ai la charge en tant que compositeur résident au laboratoire d'Aubervilliers qui est le lieu qui accueille le projet. Là, vous allez entendre un extrait de la pièce Indexation que j'ai composée en 2009. Alors dans cette pièce, toutes les paroles qui apparaissent sont indexées, c'est-à-dire qu'elles sont reliées à une activité qui lui est extrinsèque, qui est extrinsèque à la parole. Donc la parole synchronise à cette activité, ou la décrit, ou agit sur l'activité en question. En tous les cas, elle est déterminée dans son déroulement même, c'est-à-dire dans sa vitesse, par l'activité en question.
Allez, top terrain. Charles de Gaulle, Pierre-Éliott Trudeau.
Des présidents, des chefs d'État.
JFK.
Des anciens chefs d'État.
Roissy.
Des présidents, des chefs
Charles
d'État.
Charles de Gaulle. Charles de Gaulle.
Des générales, des passes.
Parce que c'est Noël, parce que c'est ta fête.
Raison pour célébrer.
J'ai acheté quelque chose au magasin.
Raison pour acheter un cadeau. Raison pour donner un cadeau.
Oui. Des patchs. Des patchs qu'on se met sur l'épaule.
Des trucs pour arrêter de fumer.
Les fesses, les seins,
des parties, des parties attirantes, des choses qui nous attirent chez quelqu'un.
Je vois toujours le bon côté des choses.
Ce que dirait quelqu'un de positif.
Parce que je sais que ça va arriver.
Ce que dirait un motivateur. Ce que dirait un passe.
Ben les gars.
Looking at a Bang Brothers production. This is at, I'm sorry, it's rather loud. This is at bigtitsroundasses.com/T1/REVS=NOADVERT/FREE_MOVIES_BigTitsRoundAsses/BTRA3978.htm. Now, I've spent so much time reading the URL that a woman is massaging the skin on her buttocks. Now she is moving her breasts up and down. They are surely not real. She is performing oral gratification on a large Hispanic man. Her vaginal area is shaved. She is, it's all going rather quickly. Now she's being humped There is a spray of what appears to be semen entering into her mouth. The recording, the video has stopped. I think I'll have to watch it about 5 more times.
S'il vous plaît, à la première trompette, 1, 2, 3, 4e de 50, aux deux premières trompettes, vous avez ré, do, dièse, pointé. N'est-ce pas? La noire pointée. Au lieu de la noire pointée, vous enlevez le point et vous mettez un quart de soupir.
Elle avait commencé, comme toutes les finales, par la présentation des équipes à M. Chaban-Delmas, le Premier ministre. Et puis par l'arrivée du ballon par la voie des airs, c'était une idée de M. Guy Potel, ancien recordman de France et moniteur de parachutisme au Centre sportif de Paris. Et puis Saint-Étienne, qui commence à attaquer par Keïta. Saint-Étienne joue en maillot sombre, à gauche de votre écran, première mi-temps, Nantes à droite, bien sûr. Le jeune Parizon, le numéro 7, qui a fait une très grande finale, vous le verrez marquer dans quelques secondes, le premier but de cette rencontre. Un round d'observation, les deux équipes jouaient quelque peu contractées pendant quelques minutes, mais vous allez le voir, les champions de France vont vite trouver le chemin des filets. À la suite d'un bon centre de Beretta, alors qu'ici c'est une attaque de Blanchet, qui échoue devant Bosquier, qui va dégager puissamment. Et donc Beretta, l'ailier gauche de l'équipe de France, va adresser, regardez bien, un bon centre que la défense nantaise va laisser passer complètement et Parizon, bien placé, va pouvoir reprendre. Voilà, cette action, vous avez l'arqué ici, la balle va arriver à Beretta, regardez bien, c'est le premier but de cette finale.
Allô.
Parizon est bien placé, 1-0, c'était le plus jeune joueur sur le terrain aujourd'hui. C'était un grand jour pour ce jeune qui a 20 ans. Il est félicité par ses camarades, 1-0, on joue depuis 26 minutes. Le deuxième but viendra de Beretta, le voici.
Allô.
Vos yeux sont l'été et mes yeux sont l'hiver.
Allô.
Et nous nous rencontrons.
Allô.
Au-delà de l'hiver et de l'été.
Bonjour, je vous avais promis de vous expliquer comment fonctionnait ce logiciel. À savoir Pro Real Time Pro.
Allô.
Parce que c'est quelque chose qui est très très important et qui permet de réaliser d'excellentes études en analyse graphique.
Il y a du chagrin dans ces mots-là.
Mais c'est toi.
Mais c'est une personne sage qui les a pensés.
Ouais.
Tu dois avoir une télécommande pour ton magnétoscope. Sinon, tu allumes juste, tu dois avoir l'interrupteur dessus.
J'ai une télécommande pour mon magnétoscope.
Voilà, bah tu l'allumes par là.
Et je l'allume et il n'y a rien dedans, il
ne
me donne rien.
Si, il va se mettre en marche. Il ne va pas être simplement sous tension avec l'heure, mais juste...
Une étrangère m'a donné une lettre.
Oui.
J'ai deviné qu'elle venait de ma bien-aimée.
Moi, j'entends très mal.
Qu'il avait écrite avec ses larmes.
C'est très loin.
Mais quand je l'ai ouverte...
Allô?
Les lettres avaient disparu.
Oui.
Je l'ai gardée avec moi pendant quelques années.
Très bien. Allô?
Et toutes les lettres se sont effacées.
Allô? Allô?
Complètement effacées.
Alors, si je regarde, par exemple, le RSI, je vois qu'il est à la date du 5 avril à 64-255, c'est-à-dire qu'il est dans la zone, disons, intermédiaire, ni en surachat, ni en survente. Donc, il ne me sert à rien, c'est-à-dire que je peux l'arrêter en cliquant simplement sur cette espèce de petit bouton noir avec un X blanc, ce qui permet de faire disparaître complètement ceci. Alors, j'exécute, voilà, en principe, ça doit se faire. Je dis en principe.
Oui.
Bon.
Oui.
Ce que vous voyez, ce sont les deux... une indication verticale rouge et puis une indication horizontale rouge, ce sont exactement les endroits qui servent pour déterminer, disons, les valeurs et un certain nombre d'autres choses qu'on verra au fur et à mesure.
Tu n'es pas encore
bien. Bien, oui, c'est
ça. Chez toi.
Chez.
Si on se consacre à une chose abstraite.
Oui, oui, monsieur.
Et qu'elle devient plus importante dans votre vie que toutes les choses concrètes.
Ne vous coupez pas, allô.
Debout. Debout.
Allô, chérie, allô aussi.
Debout. Oui. Assis.
Allô, non, je suis là.
Je crois qu'on est amené à vivre dans un état d'infirmité.
Il est évident quand vous regardez effectivement cette courbe que...
Qu'il y a des avantages et des inconvénients.
Ce sont les acheteurs qui l'ont emporté, puisque de plus la courbe du CAC 40 monte. Donc, il n'y a pas de problème, je peux aussi supprimer les volumes.
Non, les interrupteurs de télévision, il faut appuyer un peu plus d'une seconde. Vraiment.
Je supprime donc en cliquant sur ce petit bouton noir qui porte une croix blanche. Bon, ça dure un certain temps, vous avez pu remarquer tout à l'heure, mais ça va venir.
Tout le monde sait que les infirmes ont des grands avantages.
Est-ce que je l'allume manuellement?
Oui,
c'est un bouton. Tous les gens à qui il manque un sens... qui deviennent beaucoup plus forts avec ce qui reste, etc.
Elle répète le refrain.
Je lis les journaux.
Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça?
Eh bien... Je t'ai aimé pendant l'été. Je t'ai aimé pendant l'hiver.
Pendant des années, je ne lisais que la page de cinéma.
Tes yeux sont comme l'été. Mes yeux sont comme l'hiver.
Depuis quelque temps, je lis à peu près pas tout.
Maintenant, mon amour, je lis. On est au-delà de l'été et de l'hiver.
Si vous regardez ici le croisement du stochastique rapide et du stochastique lent, c'est-à-dire celui qui est en pointillé, vous remarquez que quand ils vont dans le même sens et qu'ils sont dirigés tous les deux dans le sens de la hauteur, ils correspondent parfaitement à l'évolution du CAC, à l'évolution des cours, disons d'une manière générale, parce que ce que je vous donne comme exemple sur le CAC, vous pouvez bien entendu le prendre aussi pour n'importe quelle action.
Dans quelle solitude ? J'ai du mal à écouter en même temps que la musique, oui. Si, je vous entends. Non, je suis pas, je suis pas réceptif à cette musique-là. Je ne sais pas, mais ce n'est pas mélodique. Et je ne peux écouter que des musiques mélodiques. Je ne peux pas écouter des musiques qui donnent l'impression d'arrêter le temps. Et c'est le cas de toutes les musiques non écrites, je suppose. Ou toutes les musiques non mélodiques. Je ne connais pas les termes exacts. Et ça n'a pas de début, de milieu et de fin. Ce sont des musiques qu'on entend dans les boîtes et je ne peux pas supporter ça. J'ai besoin que les musiques soient...
Donc je vais évidemment pas faire le listing détaillé de chaque source, ce serait un petit peu fastidieux. Je préfère vous faire écouter une autre pièce de ce même projet qui s'appelle Pli, que j'ai composé en 2007 et retravaillé en 2009.
The President, I would not rule out the chance to preserve a nucleus of human specimens.
It
At the bottom of some of our deeper mine shafts, radioactivity would never penetrate a mine some thousands of feet deep. And in a matter of weeks, sufficient improvements in dwelling space could easily be provided.
How long would you have to stay down there?
Well, let's see now. Cobalt sodium G?
Vie moyenne de radioactivité.
Il faudrait
You mean people could actually stay down there for 100 years?
Ce serait pas difficile, mon Führer. Des réacteurs nucléaires. I'm sorry, Mr. President.
Vous avez compris le principe. Donc c'est une séquence de film. Il s'agit de la fin de Docteur Follamour de Kubrick. Donc vous entendez la voix de Peter Sellars d'un côté et de l'autre côté la voix de l'acteur qui le double en version française. Alors en mettant les deux versions en synchronie, on a une quasi-synchronie des paroles puisqu'elles se calent toutes sur le mouvement des lèvres des acteurs, du moins lorsque l'acteur est in, c'est-à-dire dans l'image pendant qu'il parle. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant que j'ai voulu développer ensuite. Et ça a donné lieu à une installation qui s'appelle Speech Acting, dont je vais vous montrer les images. Donc l'idée, ça a été de faire le même principe avec non pas deux points et deux langues, mais huit. Donc j'ai pris la bande-son d'un film qui est Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Et j'ai pris 8 versions, donc je ne peux plus vous dire exactement les langues, mais il y avait 8 langues différentes. Et chaque langue dans un haut-parleur, et ce qui donne la même chose que ce que vous venez d'entendre, mais x8. Et alors ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'au bout d'un moment, on entend vraiment, donc ça crée une choralité de voix, donc on n'entend absolument plus le sens des paroles, évidemment. Même si on se rapproche de du haut-parleur qui diffuse la version française, on est vite déçu parce qu'en fait les voix circulent d'un haut-parleur à l'autre, donc une fois qu'on pense avoir trouvé le français, en fait il se retrouve complètement ailleurs et on est perdu. Donc le but, c'est d'entendre la globalité, la choralité de toutes ces voix, et on entend des mimétismes d'intonation, c'est-à-dire qu'on entend à quel point toutes ces voix se calent sur le référent qui est la version anglaise originale du film, et que du coup, quelles que soient les langues, on retrouve des mouvements intonatifs qui sont très, très semblables. Et ça, on en fait l'expérience en se plaçant au milieu, d'où le petit tabouret qui suggère aux spectateurs de s'installer au milieu. Donc j'aimerais maintenant évoquer un semblable déplacement, c'est-à-dire une composition sonore musicale qui donne lieu à une installation sonore à partir d'une matière totalement différente. Et là, je vais vous parler de ma pièce Passage en Vague qui a fait récemment l'objet d'une parution sur CD sur le label Brocoli. Donc c'est une pièce qui est inspirée par le vaste projet resté inachevé de l'écrivain Walter Benjamin, écrivain philosophe, qui s'est suicidé en 1940 et qui a laissé inachevé un projet qui s'appelle le Passage en Werk, le livre des passages. Alors en fait, il s'agit d'une espèce de gigantesque collection de citations, la plupart issues de sources très obscures. Benjamin disait qu'il prélevait son matériau dans les poubelles de l'histoire. Donc il y avait cette idée d'aller chercher des choses vraiment là où l'historien classique n'irait pas les chercher. Et alors ces documents étudient le passage parisien, donc d'où le titre, le livre des passages. À travers le passage parisien, la question de la modernité au XIXe siècle. Le passage, c'était une espèce de curiosité architecturale qui est à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur et qui est née au milieu du XIXe siècle, au moment où se propageait où naissait le capitalisme et la société moderne. Le passage est un lieu marchand, un ancêtre de la galerie marchande, si vous voulez, donc un lieu d'exposition de la marchandise, donc ce lieu où se manifeste ce que Benjamin appelle la valeur d'exposition, qui est opposée à la valeur culturelle. Benjamin diagnostique dans l'art et notamment dans le cinéma un déplacement depuis la valeur culturelle où on a un rapport aux choses qui est déterminé par l'unicité, c'est-à-dire que lorsqu'on est devant une sculpture ou un tableau, on est devant une chose unique, et donc le rapport est de l'ordre de ce qu'il appelle le culte. Et donc il y a ça, et pour lui il y a un déplacement de ce rapport culturel vers ce qu'il appelle la valeur d'exposition, où là on a affaire à des objets mécaniquement reproductibles, donc on perd la relation oratique à l'objet unique. Donc le passage, c'est le lieu d'exposition de marchandises, c'est aussi le lieu d'exposition de l'habitant des villes, qui est une figure un peu nouvelle, en tout cas en plein essor au XIXe siècle. Le flâneur, le collectionneur, donc, de nouvelles figures qui sont intimement liées au mode de vie urbain. Donc c'est un lieu où se manifeste, on pourrait dire, quelque chose de politique, au sens où on considérerait la politique comme l'exposition ou l'entre-exposition des individus, des singularités. Mais c'est un lieu qui est tombé rapidement en désuétude, le passage parisien. C'est-à-dire très rapidement, dans les années 1920, donc quand même un peu après les premiers passages, on n'y expose plus que des vieilleries. Et alors, le lieu se charge de tout un potentiel qu'on pourrait dire poétique, c'est-à-dire qu'il génère une espèce de rêverie nostalgico-mélancolique qui va trouver son expression artistique dans le surréalisme naissant et notamment dans un texte célèbre d'Aragon qui s'appelle Le paysan de Paris, écrit en 1926. Où là, dans ce texte, il y a vraiment l'idée que la marchandise désuète est prise comme une espèce d'embrayeur à une espèce de délire ou de rêverie poétique. Pour ma part, j'ai voulu reconduire ce geste, donc évidemment pas pour exacerber une nostalgie, mais pour interroger le rapport problématique au passé. Un passé qui, grâce à l'enregistrement, comme vous le savez, continue de nous hanter ou d'être présent. J'ai choisi de travailler sur un corpus de citations musicales bien particulier qui est la chanson française réaliste, comme on dit, des années 20-40, entre les années 20 et les années 40. Donc évidemment, aucune nostalgie pour l'époque de ma part, ni pas de fantasme de ce que pouvait être cette époque. Pour moi, ce corpus est plutôt une espèce de mémoire diffuse, c'est-à-dire quelque chose qui se donne comme passé, mais d'une manière qui est complètement indéfinie, c'est-à-dire que ce n'est pas relié vraiment à une époque, c'est du passé, c'est quelque chose qui porte en soi la valeur du passé. Alors mon travail à partir de ce corpus de citations a été double. D'une part, il consistait à indifférencier toutes ces choses, tous ces bouts de musique que j'ai prélevés. Donc j'ai enlevé toutes les voix, donc on n'entend que les passages instrumentaux qui sont en introduction des chansons. Je les ai montés et collés de façon parfois brutale, dans une esthétique qui est celle du collage et du cut, en indifférenciant tous ces éléments. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, j'ai cherché à en extraire ce qu'on pourrait appeler des potentialités non réalisées ou quelque chose comme une charge d'affect qui sommeillerait, de manière à réaliser ce qu'on pourrait appeler une uchronie sonore, donc une utopie, mais qui serait de l'ordre du temps et non plus de l'espace. Et c'est-à-dire que il s'agit d'imaginer, en tout cas de donner à entendre ce que ces chansons auraient pu être. Donc encore une fois, pas dans un passé qui serait fantasmé ou idéalisé, mais dans une espèce de conditionnel passé, c'est-à-dire ou encore un futur antérieur, donc une dimension du temps qui est non pas actuelle mais purement virtuelle. Et c'est là, à mon avis, que se situe ce qu'on peut appeler la mélancolie par rapport à la nostalgie qui, elle, est tendu vers le passé. Je reviens à la question de la collaboration, puisque c'était un travail très très solitaire que j'ai entrepris seul, que j'ai commencé en 2005, qui m'a pris 2 ans à partir de la lecture du texte. Et à la fin, j'ai choisi lorsqu'il s'est agi de l'éditer sur CD, j'ai choisi de collaborer avec 2 amis et artistes, Mathieu Larnaudy, donc l'écrivain avec qui j'ai travaillé, qui a écrit des notes de pochette pour le disque, et j'ai travaillé aussi avec l'artiste Gaël Hippolyte, et je lui ai demandé de faire une série de dessins noir et blanc, dont la fonction première était d'illustrer l'édition CD. Donc vous avez des dessins non seulement sur sur le Digipack, mais vous avez aussi un livret à l'intérieur avec le texte de Mathieu et d'autres dessins. Donc des dessins qui soient à la fois porteurs de l'horizon référentiel du projet, c'est-à-dire les références à la modernité, donc il y a beaucoup de motifs modernistes dans ces dessins, et en même temps qui soient porteurs de sa teneur ou sa charge mélancolique. Donc je vais vous passer un extrait de cette pièce en vous mettant en diaporama des images de Gaël Hippolyte. Alors, j'aimerais pour terminer évoquer la façon dont cette collaboration avec Gaëlle Hippolyte s'est en quelque sorte renversée, puisqu'elle m'a proposé ensuite de travailler avec elle sur son installation Les Belles Écouteuses, qu'elle a réalisée en 2008. Je vais vous montrer d'abord les images de cette... Voilà. Donc il s'agit d'un dispositif comprenant trois structures en bois de taille humaine, ce qui est visible là, il y a l'échelle humaine qui est là, établi à partir de modèles d'usines du début du XXe siècle. Donc ces usines à l'abandon qui sont celles qui ont été photographiées par Bernd et Hilla Becher, le couple de photographes allemands. Et alors, avec ce projet, il y avait une sorte d'hésitation entre la maquette, c'est-à-dire le schéma pour une construction à venir, et le bâtiment à l'abandon, c'est-à-dire à l'inverse, la construction passée dont il ne reste que des ruines. On a trouvé qu'il y avait la même ambiguïté temporelle ou la même uchronie que dans mon projet Passage en Vague auquel Gaëlle avait participé. Et donc elle m'a demandé d'introduire une composition musicale qui s'inscrive dans le cadre de cette installation. Et le son était diffusé donc par ces petites boules blanches qui étaient placées au-dessus de chaque structure. Alors en fait, ce dispositif-là m'a vraiment, il est né d'un désir de travailler sur ce qu'on appelle la musac, c'est-à-dire une musique produite par l'entreprise du même nom, Musac, qui, à partir des années 30, a produit énormément de musique d'ascenseur, de musique très sirupeuse, qui était censée adoucir le travail des ouvriers. Donc on les passait en usine, ces musiques, pour rendre le travail, soi-disant rendre le travail des ouvriers plus agréable. Et donc pour endormir un petit peu leurs éventuels désirs de rébellion. Ce qui m'intéressait, c'est que c'est une musique qui est absolument sans mémoire, c'est-à-dire c'est une musique, il n'y a pas de raison de garder des archives de la Musac, donc j'ai même pas cherché savoir s'il y avait des archives de la Musac des années 30. J'ai préféré imaginer, ou en tout cas recréer une Musac un peu désuète, en allant puiser dans des disques de musique d'ascenseur divers. Et donc cette musique est projetée sur chacune des trois structures, un petit peu comme cette musique qui vient surplomber la vie et le travail des ouvriers, c'est-à-dire comme une espèce de présence transcendante, un petit peu. Donc je vais vous faire écouter cette pièce qui est donc très proche de Passage en Vague, avec cette différence que cette fois-ci le travail sur les échantillons de musique est beaucoup plus pointilliste. On pourrait même parler d'impressionnisme, et un impressionnisme qui pourrait presque rappeler ce qu'on appelle en musique l'impressionnisme, c'est-à-dire la musique du début du XXe siècle en France. Et je terminerai donc avec cet extrait.
Thank you.
Merci.